Donc Michèle Bourdignon à côté de moi, co-animatrice de l'émission, et pourtant elle existe, cette littérature, sur Radio Libertaire. Donc aujourd'hui retraitée, ça se voit pas, fut psychologue clinicienne... fut psychologue clinicienne et plasticienne en herbe.
C'est ça.
Sur l'autre table, vous avez Sylviane Crouzet, bibliothécaire. Elle est membre d'un groupe de lecteurs à voix haute aux propositions choisies. Par exemple, Quand la mer monte, Histoire de bar, d'hommes et de mélancolie, et chroniqueuse pour la revue Rumeur. À son côté, Giuseppe Lucatelli, mécanicien automobile, syndicaliste et formateur. Il est également auteur de deux livres, Pièces détachées et plus récemment, Nous transporter, livre que vous pouvez trouver au service librairie, qui lui va fonctionner jusqu'à 15h, 15h30. Il faut savoir qu'à 18h, il faut rendre les clés ici, donc on ne peut pas faire comme hier, déborder trop, quoi. Donc je leur laisse la place, ils vont vous présenter, leur intervention porte sur Michèle Ragon, historien de l'art.
Merci beaucoup. Oui, effectivement, donc on va vous parler de Michèle Ragon, historien de l'art, à partir de son livre « Gustave Courbet, le peintre de la liberté ». Voilà. Donc sur le déroulement de notre intervention, je vais faire une rapide introduction sur Michèle Ragon et l'art. Ensuite, Sylviane et Giuseppe vont illustrer un interview fictif entre Michèle Ragon et un journaliste. Voilà. Et à la fin, nous vous inviterons à tous chanter ensemble le chant des ouvriers, puisque hein, ça paraît, voilà, ça paraît approprié à la littérature prolétarienne, mais on va parler aussi de la Commune de Paris, bien sûr, à partir de Courbet. Donc vous avez les paroles, ici, là, qui vous ont été distribuées ce matin. Et bien sûr, nous serons appuyés par la musique de Radio Libertaire et de Monique, voilà. Et ensuite, eh ben, nous passerons aux questions, si vous en avez. Voilà. Donc, alors, l'introduction sur Michèle Ragon, historien de l'art. Donc, Michèle Ragon est un critique d'art français d'origine vendéenne. On rappelle qu'il est né en 1924 et décédé à Paris en 2020. C'est un autodidacte qui rédige des romans naturalistes, comme Courbet feront des tableaux naturalistes, se consacre à l'activité littéraire, mais aussi à la critique d'art et à l'architecture. Quand il habite Nantes, dans sa jeunesse, il va fréquemment au Musée des Beaux-Arts admirer le tableau « Les cribleuses de blé », ici exposé, de Courbet, sur qui il écrira une remarquable biographie. Donc vous avez le livre ici, le livre est épuisé, mais bon, peut-être vous pouvez le trouver sur Internet. En tous les cas, vous pouvez le trouver dans les bibliothèques. C'est vraiment une biographie remarquable, et sur Courbet, et sur toute l'époque, enfin, toute la vie de parisienne, au temps de Courbet. En 1944, donc, Michèle Ragon rencontre à Nantes le poète René-Guy Cadou, Martin Barret, peintre. En 1945, il rencontre James Guitta, peintre, et organise une première exposition en 1954 et 1955. Installé à Paris en 1945, il se lie d'amitié avec Henri Poulaille, on en a beaucoup parlé hier. Il côtoie donc beaucoup d'écrivains prolétariens. Dès 1947, il écrit une anthologie sur la littérature prolétarienne, Les écrivains du peuple. Son amitié avec Henri Poulaille lui ouvre également les portes du monde libertaire auquel il reste attaché toute sa vie, comme Courbet restera attaché toute sa vie à Proudhon. Dès 1945, il découvre dans les galeries parisiennes les toiles de jeunes artistes abstraits, alors totalement inconnus, tels que Hans Hartung, Jean-Michel Atlan, Pierre Soulages, bien évidemment, qu'il suivra toute sa vie, Serge Poliakoff et Gérard Schneider. Il est l'un des premiers amateurs de l'art brut, et Dieu sait qu'à l'époque il avait du courage. En 1945, il rencontre le peintre Gaston Sieyès-Sack et lui consacre un article dans la revue de Poulaille qui s'appelle « Maintenant ». Il devient aussi l'ami de Jean Dubuffet, avec qui il partage le même goût pour les idées libertaires. Et en 1983, il préfacera un catalogue pour la fabuloserie de son ami l'architecte Alain Bourbonnais. L'art brut est aujourd'hui représenté à la Halle Saint-Pierre à Paris, voilà, où il y a eu très récemment une exposition pour l'anniversaire de la fabuloserie. En 1948, il se tourne vers l'activité de critique d'art, défenseur de l'abstraction lyrique, pardon, Atlan, Hartung, Poliakov, Soulages, et fonde avec son ami Jean-Robert Arnaud, éditeur et galériste, la revue Simez, qui est une revue de l'art abstrait. En 1949, il devient le correspondant français des artistes du groupe Cobra, donc Jorne, Dautremont, Happy, Constant, Corneille, Pierre Alechinski, Gaston Sieyès-Sack, et côtoie les artisans du Fluxus Art, dont un des derniers représentants vient de décéder. Il s'agit de Ben, qui est décédé il y a quelques jours, voilà, qui s'est suicidé après l'AVC de sa femme, voilà, quelques jours après. Il devient critique d'art par hasard, par amitié en fait, puisque c'est quand même un grand moteur chez Michel Ragon, l'amitié, comme chez tous les anarchistes d'ailleurs, puisqu'il est l'un des rares amateurs d'art à s'intéresser à l'époque à tous ces artistes abstraits, dits informels, aux nouveaux réalistes, et à des artistes comme Yves Klein et Jean Tinguely. Voilà. Comme d'ailleurs Courbet sera un des premiers à s'intéresser à Jean Monnet et aux impressionnistes. Ils ont quand même des choses parallèles. À partir de 1948, il publie des articles plus ou moins régulièrement dans les revues, donc Art, Neuf, Le Jardin des Arts, Art Loisirs, Galerie des Arts, Les Échos, Beaux-Arts, Chronique de l'art vivant et l'Express. De 1953 à 1963, puis de 1967 à 1974, il anime la revue Simez. En 1956, il publie L'aventure de l'art abstrait. Dans les années 1950 et 1960, il contribue à défendre les nouveaux peintres et sculpteurs de Kooning, Jean Fautrier, Pollock, Martha Pan, Alexander Calder, Francis Bacon, Louise Nevelson, mais aussi des artistes, des peintres de l'école de New York, Franz Klein, Mark Rothko, Robert Rauschenberg, Jasper Johns, Antonio Sora et Jacques Poli. En 1956, il organise une exposition qui sera très controversée sur le toit de l'unité d'habitation que Le Corbusier vient de réaliser à Marseille, exposition qu'il organise avec Tinguely, Soto, Yves Klein, Soulages, Poliakov. Et qu'est-ce qu'on aurait aimé être là, hein, en fait. Courbet aussi, d'ailleurs, va organiser des expositions très controversées. Donc, c'est une exposition qui va être très controversée, entre autres, par les situationnistes Debord, Asper-Jones et Gilles Volman. Cet intérêt pour des formes d'art amènera à sa brouille avec Henri Poulaille, on en a déjà parlé hier, hein, certains intervenants en ont parlé hier, mais Ragon n'a jamais accepté de se laisser enfermer dans aucune chapelle. Et ça aussi, un de nos camarades en a parlé hier, il aimait la liberté avant tout, comme Courbet. Il s'intéresse aussi d'ailleurs à la musique et à la danse contemporaine, Courbet aussi, et au théâtre d'avant-garde. Il se réconciliera avec son ami Henri Poulaille en 1979, juste avant le décès de celui-ci. Il publie plusieurs ouvrages consacrés au dessin d'humour et à la caricature. Alors là aussi, similitude complète avec Courbet, qui adorait en fait être caricaturé. De 1967 à 1976, ses amis dessinateurs l'élisent président d'honneur de la SPH, c'est-à-dire de la Société protectrice de l'humour. Il est aussi membre du comité d'honneur de la Maison internationale des poètes et des écrivains de Saint-Malo. De 1966 à 1969, c'est ça, il est président du syndicat des critiques d'art, l'AICA France, puis devient le président de l'AICA, c'est-à-dire l'Association internationale des critiques d'art. De 1957 à 1967, il voyage beaucoup et rencontre peintres, architectes et poètes du monde entier. En 1967, il présente l'exposition « Une aventure de l'art abstrait » 1950-1967 au musée Galliera à Paris. En 1969, la publication de « 25 ans d'art vivant », recueil de textes critiques, marque la fin de son activité de critique d'art. À partir de 1962, il se tourne vers la critique de l'architecture et confie à Claude Guéman, un critique musical, donc Michel Ragon lui dit « Le marché du tableau est un marché ignominieux. J'ai abandonné la critique d'actualité de la peinture en grande partie justement à cause de ce commerce. Tout ce que je pouvais écrire au moment où j'ai obtenu une certaine notoriété était récupéré par le marché du tableau. Je suis allé voir l'architecture et l'urbanisme qui me ramenaient dans la vie sociale et dans la vie quotidienne. » Il écrit à ce moment donc « L'art, pourquoi faire ?» qui est le thème de la conférence suivante après nous. Pour notre conférence, donc, comme je vous l'ai dit, nous nous sommes inspirés du livre de Michel Ragon, ici, aux éditions Fayard, Gustave Courbet, peintre de la liberté qui leur était si cher à tous les deux. Donc maintenant, je laisse la parole à Sylviane et à Giuseppe et je vous présente le tableau. Donc leur interview va être émaillée de tableaux que je vous présenterai, mais succinctement, simplement le titre au départ. Hein, voilà. Donc ici, Le désespéré.
Michel Ragon, pourquoi Gustave Courbet ?
Ma découverte pour l'art de Gustave Courbet a été la dernière que j'ai faite, mais certainement l'une des plus extraordinaires. Sans doute parce qu'elle coïncidait avec mon attirance pour la Commune de Paris et le mouvement anarchiste. Cet intérêt pour cette peinture et l'art populaire en général, je la partage par analogie et peut-être par affinité élective, non sans orgueil, avec Jean Dubuffet et Gaston Chessac. Dans un de mes précédents romans, qui mêlait personnages réels et imaginaires, un si bel espoir, je mettais en scène un architecte utopiste du Second Empire. C'est une période que l'on connaît assez mal, où l'on voit naître le chemin de fer et la grande industrie. À mon héros, utopiste, qui rêvait d'améliorer les conditions de vie du peuple par l'habitat, j'avais donné comme ami Gustave Courbet. Le portrait que j'y faisais du peintre a beaucoup plu au lecteur. C'est ainsi que les éditions Fayard m'ont commandé cette biographie.
En effet, le livre dont vous parlez à l'instant est paru en 1999 aux éditions Albin Michel. Dans la veine des mouchoirs rouges de Cholet et de la mémoire des vaincus, vous poursuivez une œuvre romanesque mêlant, comme vous seul savez le faire, la précision historique à l'enthousiasme romantique. Ici, vous nous faites vivre les changements qui s'opèrent dans le Paris du Second Empire, Paris éventré par des grands boulevards, des entreprises pharaoniques d'Haussmann, le règne de la banque et du commerce. Cette époque voit pourtant aussi gronder la classe ouvrière et s'affirmer le socialisme utopique. De ce chaos émerge la figure d'Hector, fils d'ouvrier devenu architecte. Il a pour ami Courbet et pour idole Proudhon. Proudhon et Courbet. Deux figures qu'on retrouve dans votre livre, Gustave Courbet, peintre de la liberté, dont vous nous... Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur eux ?
Pierre-Joseph Proudhon et ses enfants en 1853.
Toute sa vie, Courbet avouait une admiration inconditionnelle à Proudhon. Le socialisme dont il se réclame, l'indépendance forcenée qu'il met en pratique, l'anarchisme qui est sa ligne de conduite, tout cela, il l'a trouvé dans la doctrine de Proudhon. Outre leur origine franc-comtoise, Courbet et Proudhon avaient de nombreux points en commun. Né dans le quartier des Vignerons, un faubourg de Besançon, Proudhon avait lui aussi des racines semi-campagnardes. Ancien ouvrier, il était plus proche du peuple que Courbet, mais tous les deux étaient en marge de cette civilisation industrielle sur laquelle Karl Marx fondait sa doctrine. Modernes en politique, ils étaient passéistes face à la montée du prolétariat citadin qui leur échappait et dans lequel Marx verra judicieusement l'avenir. Pour autant, s'il y a de l'admiration chez Courbet pour Proudhon, l'inverse n'est pas réciproque. L'œuvre de Courbet lui semblait anticiper l'art de l'avenir, mais l'homme l'agaçait, comme il en agaçait tant d'autres par sa mégalomanie. Proudhon dit de lui, il est un fanfaron de vanité. Ce qui ne l'empêche pas d'admirer l'artiste et de s'appuyer sur la peinture de Courbet pour théoriser sur l'art en général dans son ouvrage « Du principe de l'art et de sa destination sociale ». De Courbet, il dit encore « C'est un véritable artiste de génie, de mœurs, de tempérament, et comme tel, il a ses prétentions, ses préjugés, ses erreurs. Tout d'abord, il se croit, à l'exemple de ses confrères, un homme universel. Il faut en rabattre. Doué d'une vigoureuse et compréhensible intelligence, il a de l'esprit autant qu'un homme du monde. Malgré cela, il n'est que peintre. Il ne sait ni parler, ni écrire. Les études classiques ont laissé peu de traces chez lui. Taillée en Hercule, la plume pèse à sa main comme une barre de fer à celle d'un enfant. On peut définir Courbet, une grande intelligence dont toutes les facultés sont concentrées en une seule.
Dans votre livre, vous parlez beaucoup de l'orthographe déficiente de Courbet. Réalité ou coquetterie ?
On peut penser que c'était les deux. Il mettait toujours deux L à toile. Mais l'orthographe n'était pas fixée comme aujourd'hui. Courbet savait si bien mettre en valeur son originalité qu'on peut le soupçonner d'avoir cultivé cet art. Faute d'orthographe, accent prononcé et une certaine rusticité. Quand il parle de la peinture italienne de la Renaissance, il la qualifie ainsi. Tout ça, c'est de la marde, à la façon franc-comtoise. Son ami d'un temps, Charles Baudelaire, lui reconnaît son manque de culture intellectuelle et son côté rustre, qui sentait trop la ferme paternelle. Vallès, lui, plus enthousiaste, déclare « Le plus bel animal que j'ai vu, ce sacré bonhomme-là. Travailleur comme un bœuf, mais gai aussi, comme un ourson, bête des champs et bête de foire. »
Portrait de Jules Vallès.
Gustave Courbet, un genre de père Ubu, en quelque sorte.
Oui, pour ainsi dire. L'homme était tellement présomptueux et agaçant, mais je me réconcilie avec lui à la fin de sa vie. Il y a du Gargantua chez Courbet. Énorme en tout. En bedaine, en alcoolisme, en mangeaille, en créativité. Sa production et la vitesse avec laquelle il peint est incroyable. Bien sûr, il y a des peintures trop hâtives, bâclées, mais aussi dans la même foulée, des chefs-d'œuvre. Il est vrai que Courbet est goinfre. Il faut aussi parler de lui comme ayant un grand sens du commerce. Courbet n'a jamais perdu de vue les détails de ses petites affaires. Cette aptitude pour le négoce fera de lui le premier peintre moderne dans la manière de se vendre. À l'époque, il y a deux sortes d'artistes, les maudits et les officiels. Courbet se rend vite compte qu'il n'arrivera jamais à être reconnu par l'Académie. Alors il se crée une vraie clientèle de marchands et de collectionneurs, grâce à la publicité. Souvent caricaturé, injurié, il ne se plaindra jamais des mauvais traitements de la presse ou des commentaires acerbes des critiques d'art. Il sait que plus on parlera de lui, plus ses tableaux se vendront.
Caricature de Courbet par Léonce Petit.
L'homme et le peintre, chacun d'eux semble rendre à l'autre quelque chose, la part manquante. Par contraste, celle qui travaille renvoie à l'artiste profondément égocentrique et calculateur.
Incontestablement. Toute sa vie est placée sous le signe du scandale. Il dit « il faut encanailler l'art ». Il y a trop longtemps que les peintres, mes contemporains, font de l'art à idées et d'après des cartons. En 1849, Gustave Courbet est à Ornans, sa ville natale. Il a 30 ans. Il convie tous les habitants de la ville, ou du moins ceux qu'il connaît, à se faire portraiturer dans son atelier. Il les réunit dans une scène familière, sans grandiloquence, une scène banale que tout le monde reconnaîtra, un enterrement à Ornans. À cette époque, les grands formats sont réservés aux sujets historiques, aussi bien par Ingres que par Delacroix. Courbet comprend qu'il peut appliquer les données de la grande peinture à des sujets puisés dans la société contemporaine, les plus ordinaires, les plus journaliers. Courbet. Reniant l'idéal faux et conventionnel, en 1848, j'arborais le drapeau du réalisme qui seul met l'art au service de l'homme.
À vos yeux, quelles sont les œuvres les plus importantes de Courbet ?
Toutes celles qui évoquent la vie rurale, un monde dont Courbet était issu et qu'il n'a jamais vraiment quitté. Un enterrement à Ornans ou les casseurs de pierre. J'aime aussi énormément ces marines. Il est le premier à s'intéresser à la mer pour elle-même. Alors que les autres artistes s'attachent encore à des motifs, bateaux ou paysages, lui peint des vagues, que des vagues. C'est là sa totale modernité.
Donc ici, vous avez les casseurs de pierre. Puis un enterrement à Ornans, les paysans de Flagey revenant de la foire, mer en automne, et la mer orageuse dite la vague.
Il y a aussi ces nus. Comment expliquez-vous que les siens fassent scandale alors que les nus étaient très à la mode en cette fin du XIXe siècle ?
Parce que les siens ne sont pas ripollinés. Il ne peint pas des nus, mais des femmes déshabillées, c'est-à-dire des femmes de tous les jours, prêtes à la sensualité, non pas des figures mythologiques ou idéales. Chez lui, le nu est élégant, jamais vulgaire. Il va jusqu'au nu anatomique, encore jamais représenté en peinture. C'est l'origine du monde.
Donc ici, la femme au bas blanc ou les bas blancs. Les trois baigneuses. Le sommeil ou les deux amis ou paresse et luxure.
Mais du vivant du peintre, peu de gens ont vu ce tableau, qui a une histoire rocambolesque.
Courbet a peint l'origine du monde pour le collectionneur Khalil Bey, qui, conscient de la nudité de ce nu, la soustrait à la vue de ses visiteurs en le plaçant voilé dans son cabinet de toilette. Du vivant de Courbet, seuls trois témoins racontent avoir contemplé le tableau. Bien des péripéties plus tard, après avoir transité par l'Allemagne et la Hongrie, c'est Jacques Lacan qui s'emporte acquéreur et qui recouvre la toile d'une peinture d'André Masson. Depuis 1995, on peut voir le tableau au musée d'Orsay, l'institution en quelque sorte sortie Courbet du purgatoire.
Donc l'origine du monde.
Au début de cet entretien, vous faisiez référence à la Commune de Paris, au mouvement anarchiste et à votre attachement à cette idéologie. C'est votre côté politique. À 80 ans, vous persistez toujours ?
Je l'avoue. Je m'accroche, marque-boute contre vents et marées, à une conception du devenir du monde qui pourrait s'accomplir sur un mode révolutionnaire. Car la Commune, ce fut avant tout cela, des ouvriers, des artisans, des bourgeois qui refusaient l'armistice signé par les Versaillais et qui s'improvisaient soldats pour barrer la route à l'ennemi.
En dehors de la Commune et de son important retentissement historique dans les mouvements d'inspiration libertaire, revenons un instant, si vous le permettez, au peintre Gustave Courbet. Je voudrais connaître votre sentiment sur son implication vraie ou supposée à la démolition de la colonne de la place Vendôme, sachant qu'ironie de l'histoire, il finira par s'engager à la relever à ses frais.
Caricature de Courbet sur le père Duchesne, illustré, avec la colonne Vendôme.
Gustave Courbet ne fut pas élu immédiatement membre de la Commune. Le blanquiste Édouard Vaillant le maintient d'abord dans sa fonction de président de la Commission des artistes. La mission qui lui est dévolue est uniquement artistique et administrative. Le 12 avril 1871, 4 jours avant que Courbet soit élu membre de la Commune, celle-ci avait pris la décision de détruire le monument par un décret affiché sur les murs de la capitale, article unique, la colonne de la place Vendôme sera démolie. Le 16 avril, Courbet est élu par 2418 voix sur 3469, et devient délégué de la Commune du 6e arrondissement. Le 16 mai, démolition de la colonne Vendôme, considérée comme symbole du despotisme impérial. Le 21 mai, Adolphe Thiers lança l'armée régulière contre Paris, sous la conduite du maréchal Mac Mahon. Il allait prendre sa revanche en écrasant la Commune. Ce sera le début de la semaine sanglante. Officiellement, le nombre de fédérés et fusillés est estimé à 20 000, mais ce chiffre est vraisemblablement sous-estimé. Le bilan officiel rapporté par le général Appert devant l'Assemblée nationale fait état de 43 522 arrestations, dont 819 femmes et 538 enfants. Et de près de 4000 déportés au bagne, dont Louise Michel. Le 14 août 1871, Courbet comparaît devant le Conseil de guerre siégeant à Versailles. Il choisit de se payer les services d'un avocat célèbre qui lui avait été recommandé par Jules Ferry. Sa plaidoirie consistera à présenter le peintre comme un naïf, dont le rôle pendant la Commune aurait été tout à fait accessoire. À l'audience, il répond au président qui l'interroge sur le fait qu'il avait souhaité la démolition du monument. Courbet. Pour moi, cette colonne obstruait. Un individu n'a pas le droit d'entraver la circulation. Cette colonne était mal placée. Moi, je considérais la chose qu'au point de vue plastique. Je n'avais aucune haine contre la colonne, puisque mon oncle a été l'un des officiers du Premier Empire. Mais je voulais la mettre ailleurs, qu'elle fût mieux en vue. Je voulais la déboulonner. Si vous aviez fait attention au point de vue de l'art à cette colonne, vous auriez été de mon avis. C'est une mauvaise reproduction de la colonne de Trajan. C'était de la sculpture comme un enfant en ferait. Pas de perspective, rien. Les figures sont absolument grotesques. Le président poursuit. C'est alors un zèle artistique, tout simplement, qui vous poussait à en vouloir à cette colonne. Courbet, tout simplement. Sur la place Vendôme, c'était une prétention malheureuse d'œuvre d'art qui faisait rire les étrangers. Aux Invalides, c'était autre chose. C'était un souvenir militaire qui n'avait pas besoin d'être artistique. En septembre 1871, le verdict tombe. Dans un premier temps, la cour se montre indulgente envers Courbet. 6 mois de prison, 500 francs d'amende et 6 950 francs de frais de justice. Son avocat lui conseilla de ne pas faire appel. Mais en 1874, MacMahon lui rappelle sa promesse concernant la colonne Vendôme et le condamne à payer la somme de 323 001 francs et 68 centimes. Victime propitiatoire, Courbet restera toujours marqué parce que la postérité considéra comme une faute, pas seulement une faute politique, ce qui s'excuse toujours, mais plus grave, une faute de goût. Après un séjour à la prison de Sainte-Pélagie, Courbet s'exile en Suisse.
Autoportrait à Sainte-Pélagie.
Le 31 décembre 1877, Gustave Courbet, malade, meurt épuisé, 3 ans avant l'armistice général, à l'âge de 58 ans. Le sinistre Maxime Ducamp salua sa mort par cette brève oraison funèbre. Ce n'était point un mauvais homme, ce n'était qu'un simple imbécile. Sa vanité remplaçait l'esprit par la malice. Entre lui et Napoléon Ier, c'est une affaire personnelle. Le peintre estimait que la gloire de l'empereur nuisait à la sienne. Quittons-nous plutôt sur les mots de Courbet pour justifier son refus de la Légion d'honneur. Quand je serai mort, il faudra qu'on dise de moi. Celui-là n'a jamais appartenu à aucune école, à aucune église, à aucune institution, à aucune académie, surtout à aucun régime, si ce n'est le régime de la liberté. Thank you.